Bonjour à tous. Je vous laisse prendre place. Bonjour. Je vous souhaite une cordiale bienvenue ici à l'Église évangélique de Mérin. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous soyez ici depuis très longtemps, que vous fassiez un peu partie des meubles, bienvenue à tous. Une bienvenue cordiale et pleine de bienveillance. La même bienvenue que nous avons reçue avec mon épouse il y a jour pour jour pratiquement 2 ans, lorsque nous avons franchi cette porte pour la première fois. Une bienvenue également à nos 2 pasteurs titulaires, Philippe Anchaud, Claude Bécher, qui pour une fois sont de l'autre côté de l'estrade, dans la position de ceux qui reçoivent, alors qu'ils nous ont, dimanche après dimanche, tant donné. Bienvenue à vous. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à 2 groupes de personnes, 2 situations, si on veut bien. Une bienvenue pour ceux qui ne viennent peut-être pas très souvent ici, parce qu'ils sont dans une période où il y a une motivation qui est pas très forte, ou qui sont en recherche, voire un peu éloignés ou dans le doute. Mais si vous avez réussi à venir ce matin, c'est que votre envie était plus forte que ces choses qui nous ralentissent. Je vous félicite d'être venu et je vous adresse une bienvenue particulière. Et également une bienvenue particulière à ceux qui sont dans la difficulté liée à l'âge, où le fait de venir le dimanche matin, c'est difficile parce qu'on est âgé, on est dans la difficulté. On est dans la mobilité qui est difficile et peut-être c'est à chaque fois un défi que de venir le dimanche matin, que d'arriver à venir ici le dimanche matin. Et si vous êtes là aussi, c'est vraiment une très bonne chose et je vous félicite et je vous accueille particulièrement. Alors pour ce culte, nous avons préparé un peu ce culte. Évidemment, je n'étais pas tout seul. On a les musiciens qui sont là, qui vont nous accompagner tout à l'heure. Mais pour la préparation plus concrète, j'étais très bien entouré, puisqu'il y a mon épouse Danielle qui va tout à l'heure dire quelque chose particulièrement pour les enfants. Et puis, il y a Denise Félix qui va nous apporter tout à l'heure la prédication. Donc j'étais très très bien entouré par ces dames. Et je suis persuadé que dans le ciel, il y a beaucoup de joie lorsque des femmes librement se lèvent et prennent la parole pour apporter quelque chose de substantiel à la communauté. Et je voulais vraiment le dire ce matin. Maintenant, je vais juste prendre 2 petites minutes pour partager avec vous un verset que j'ai lu, qui est dans Philippiens, au 3e chapitre, verset 14, et qui dit « Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus, nous appelle à recevoir là-haut. » C'est quelque chose qu'on a souvent entendu, ce verset. Et pour ma part, j'ai toujours eu un peu l'image du sportif qui voit la ligne d'arrivée, qui est proche de la ligne d'arrivée, et qui va la franchir et qui va obtenir le prix pour sa victoire. Mais en fait, lorsque on lit également le verset qui est juste avant et qui dit « J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi », ça nous donne une vision un peu différente. On ne voit plus uniquement la ligne d'arrivée, mais on voit un petit peu tout le parcours, toute la distance et tout le mouvement qu'il y a. Il y a quelques années, j'ai participé à des courses cyclistes, notamment ici dans le Mandement, il y a la classique genevoise qui a lieu toutes les années au printemps. Et quand bien même j'avais un vélo correct, il fallait quand même pédaler dans les montées. Et je vous rassure, j'étais toujours dans le premier tiers du classement, en commençant par le bas. Mais une fois, j'ai vu un gars qui a fait cette course avec un vélo tout-terrain qui devait faire 20 kilos. Et ça me semblait tellement étrange de faire une course cycliste avec un vélo qui est en surpoids. Et ça me semblait être à l'envers du bon sens. Et c'est vrai. Pour quelle raison est-ce qu'on devrait affronter des efforts, une course avec un poids qui est superflu? On essaye d'avoir la machine la plus légère. Et finalement, dans la vie, c'est un petit peu la même chose. Dans la vie chrétienne, c'est un peu la même chose. On devrait laisser les choses anciennes de côté. On devrait laisser de côté ces poids qui nous entravent et qui nous empêchent un petit peu d'avancer, voire qui nous ralentissent. Et vous allez voir que dans la suite du culte, on va retrouver ce thème. Je vais prier pour cette célébration. Merci Seigneur pour la liberté de réunion dont nous jouissons encore aujourd'hui pour célébrer ce culte. Et nous voulons nous souvenir de ceux qui n'en bénéficient pas au même moment où nous parlons ici. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment où j'espère que nous allons trouver le réconfort pour ce qui a été difficile pendant la semaine qui s'est écoulée et recevoir les forces dont nous avons besoin pour affronter la semaine qui vient. Merci également de nous donner la sagesse de laisser de côté nos poids et nos encombrements pour être perméables aussi bien à la louange qu'à la prédication et à toute la célébration. Amen.
Il semble qu'il y a un petit souci, il ne m'entend pas la guitare. T'entends pas ? On va y aller comme ça quand même. Bonjour, et on va continuer à la suite avec quelques chants. Et on commencera avec ce chant qui dit « Tout à toi ».
Soit tout. vie soit toute à toi, toute à toi, je veux tout donner pour toi.
Voilà, c'est vrai que c'est un peu abrupt de démarrer la louange avec un chant aussi engageant que ça, un chant qui nous invite à tout donner ce qu'on a, comme ça, en début de culte. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Les enfants, ça veut dire quelque chose pour vous ? Pour l'instant, ils jouent aux voitures, mais la voiture. Est-ce qu'il faut la redonner ? Les cadeaux de Noël qu'on a reçus, il faut les redonner à Jésus ? Peu difficile quand même. C'est ça que veut dire la Bible. On veut bien donner nos angoisses, nos soucis, mais qu'est-ce qu'en est de nos biens, de notre confort, de nos habitudes ? C'est pas une question facile, hein, et pourtant la Bible, elle nous demande ça. Alors moi, je vais pas donner la réponse maintenant, mais juste après les chants, Daniel, la dame qui est tout devant là avec les lunettes, elle va raconter une histoire aux enfants qui tentera d'expliquer ceci. Et puis Denise, qui réfléchit au thème depuis déjà bien quelques temps, eh bien, elle a préparé son message sur ce thème. Alors, voilà, on aura la réponse dans la suite du culte. Et pour poursuivre, on va chanter Jésus qui nous libère, Jésus en qui nous voulons nous confier.
Asseoir. S'il y a encore des enfants dans la salle, ils peuvent nous rejoindre devant. Merci. Pardon. Il va pas se mettre juste le micro. C'est bon ?
Je ne sais pas où il est.
Mais non, il est tout là-haut. On va y arriver. Hein.
Quelle misère.
C'est bon, du coup ? Il remonte. Vous m'entendez ? L'essentiel, c'est là, c'est ça. Alors,
il est vraiment, mais il est,
on va y arriver, hein. Non, là, il est dans le nez, ça va pas le faire. Ah, il nous faut un vrai technicien, là, je crois.
Vas-y voir.
On a réglé avant, je vous rassure. C'est toujours comme ça, voilà. On va y arriver, hein. Sinon, je prends un micro, mais j'ai plein de choses dans les mains. Je dois vous montrer des images, alors sinon, je ne vais pas y arriver.
Ça va ?
Voilà, ça y est. Je bouge plus. Voilà, alors ça, je dois allumer aussi. C'est bon. Sorti de mon oreille, là. Voilà. C'est bon comme ça ? Voilà, comme ça, j'ai mes mains libres pour vous montrer les images. Les grands aussi, ils ont quelques images, ils n'ont pas tout. Vous aurez tout. Vous voyez bien, là ? C'est bon ? Ok. Tout plissé était un petit écureuil toujours inquiet. Tellement inquiet qu'il avait le front tout plissé, la bouche toute serrée, les poings tout fermés, le ventre tout coincé. Il était tout emberlificoté. Il avait une barre entre les yeux, un creux terrible au-dessus du nez. Il était très malheureux. Quand l'automne venait, tout plissé était très inquiet, car il lui fallait faire ses provisions. Il se disait, aurais-je assez de noisettes pour tout l'hiver ? Alors il entassait, il entassait, il entassait. Un jour, il en ramassa tellement qu'il ne sut plus où les mettre. Il se renfrogna. Ma maison va craquer ! Il serra ses noisettes, il les poussa tout au fond, il les empila jusqu'au plafond. Puis il se fit un petit creux tout petit juste pour lui, entre ses provisions et la porte de sa maison. Il ne pouvait plus bouger, à peine respirer. Il devint tout ronchon, tout grognon, tout renfrognon. Il n'osait pas se régaler parce qu'il se disait « Et si demain j'ai faim ?» Ben, attendons demain. Il n'osait pas sortir parce qu'il se disait « Et si un voleur vient ?» Il était si inquiet qu'il n'avait pas un ami à qui confier sa clé. Il ne mangeait pas, il ne sortait pas, il ne dormait pas, il ne parlait pas, il ne jouait même pas. il surveillait ses noisettes. Ses voisins disaient « Regardez, tout plissé, il ne sait pas s'amuser. Il est tout plissé, tout serré, tout fermé, tout coincé, tout renfrogné, tout emberlificoté, quoi. » Or, une nuit, petite taupe revenant de chez ses amis se perdit près de chez lui. Elle frappa à la porte de tout plissé. Qu'est-ce que c'est ? Interrogea l'écureuil d'une voix tremblante. Il avait si peur qu'on vienne le voler. Je suis perdu, dit petite taupe. Est-ce que je peux attendre ici jusqu'à ce qu'on vienne me chercher ? Entre, dit tout plissé, dont le front se plissa davantage. Mais surtout, ne touche à rien, hein, et surtout pas à mes noisettes. Comme petite taupe ne disait rien, tout plissé finit par demander « Tu n'as pas faim ?»« Si. » « Alors pourquoi tu dis rien ?»« Bah, c'est-à-dire... c'est-à-dire quoi ?»« Bah, on dit... Bah, les voisins... Bah, qu'est-ce qu'ils disent, les voisins ?»« Bah, ils disent... Voilà. Ils disent que vous ne donnez jamais rien. » Tout plissé plissa le front encore plus profond en signe de grande agitation et puis il dit « Prends une noisette, si tu veux. » « Merci, monsieur, c'est délicieux. » Jamais de toute sa vie de petit écureuil tout plissé n'avait entendu quelqu'un lui dire « Merci, monsieur, c'est délicieux. » Il eut envie de l'entendre encore pour voir. Il dit « Redis-moi ça, s'il te plaît. » Petite taupe le regarda d'un œil malicieux. Alors tout plissé lui dit « Prends encore une noisette si tu veux. » Ravi, il entendit « Merci, monsieur, c'est délicieux. » Quand Madame Taupe arriva pour chercher sa fille, elle n'en crut pas ses oreilles. Tout plissé disait « Serre-toi, petite taupe, prends ce que tu veux. » Tout plissé ouvrit la porte, tout joyeux, et dit « Prendrez-vous une tasse de thé, Madame Taupe, avec une noisette ou deux ?»« Merci, monsieur. » « C'est délicieux, » répondit Madame Taupe. Tout plissé, qui n'était plus du tout plissé, faillit lâcher la théière. Madame Taupe courut partout, criait la bonne nouvelle. Tout plissé n'était plus du tout plissé. Il était déplissé, desserré, décoincé, défroissé, décontracté, dérangé, décoiffé, défrisé, désembirlificoté. Il passa un merveilleux, un délicieux hiver, juste avec ce qu'il faut de noisettes pour ne jamais manquer de rien, et juste ce qu'il faut d'amis pour être tout à fait heureux. Je vais prier pour les enfants et pour ce culte. Seigneur, nous voici tous, petits et grands, devant toi, pour écouter ce que tu veux nous apprendre de toi ce matin. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que nos esprits soient réceptifs. Rends-nous sensibles à ta parole et qu'elle nous permette de grandir en toi. Je te demande de bénir chacun ici présent, les enfants comme les grands. Amen. Alors, les enfants, avant de descendre... J'ai un service à vous demander. Allez, venez voir. Passez où ? Regardez. Qu'est-ce que c'est ? Ah, des noisettes. Allez, t'as vu ? Il y a plein de noisettes là. Vous prenez chacun une tasse ? Vous arrivez ? T'aimes pas trop les noisettes ? C'est pas grave. T'es pas obligé d'en manger, mais tu peux quand même prendre une tasse. Je vais peut-être demander aux monitrices, aux moniteurs, de nous aider. Voilà. Alors, vous avez le droit de manger une ou deux noisettes, si vous n'êtes pas allergique. Hein. Voilà. Chacun a pris une... Oui, après, vous le prenez. Chacun a pris une tasse. Alors, en fait, toutes ces noisettes, elles sont bonnes ? Ouais.
Est-ce qu'il y a des enfants qui t'ont dit merci ?
Ils ont dit merci ? Je n'ai même pas fait attention. Ouais, ils ont dit merci. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est que je suis sûre que là, dans la salle, il y a plein de grands qui ont envie de noisettes. Vous allez les distribuer ? Et vous avez le droit de tendre la main si vous voulez une noisette. Hein. Voilà. Vous pouvez donner, les gens peuvent prendre des noisettes. On va donner les noisettes. Vous pouvez rejoindre vos moniteurs, vos monitrices. Bon culte, les enfants. Je vais lire dans Marc 10, 17 à 31. J'ai mangé une noisette, ça. Prochaine fois, il faudra qu'on prévoie le petit thé froid avec la noisette, je ne sais pas. Le petit thé. Lisons. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait : « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit : « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples : « Qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Mais Jésus leur répète : « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux : « Alors qui peut être sauvé ? » Fixant sur eux son regard, Jésus dit : « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire : « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit : « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou chant à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple maintenant en ce temps-ci maison, frère, sœur, mère, enfant et chant avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers et les derniers seront premiers.
Il y a des perturbations par là. Bon. Récit, histoire d'une rencontre entre Jésus et un homme riche. Dans la tradition, on a gardé le fait que c'était un jeune homme. Vous êtes d'accord? Mais vous avez entendu, là, c'est juste quelqu'un. En fait, il n'y a que le texte de Matthieu qui parle d'un jeune homme. Et encore, il ne l'appelle jeune homme qu'au moment où il part tout triste. Au début, c'est juste un homme. Dans l'évangile de Luc, c'est un notable. Dans la Tobe, c'est quelqu'un. Dans d'autres versions, c'est un homme. Je me dis que c'est peut-être une façon de généraliser, de se dire que cette histoire s'adresse à n'importe qui. À vous, à moi. Bon, c'est un texte qui est délicat parce qu'il touche à notre rapport à l'argent. C'est un rapport complexe parce que l'argent ne nous apporte pas seulement de quoi vivre, manger, avoir un toit, des habits, payer nos assurances, être sûr qu'on sera soigné quand on est malade, mais ça touche aussi à notre identité. Hein. Ce qu'on achète dit quelque chose sur ce que l'on est, au besoin d'être comme les autres, sans parler du pouvoir qu'il donne. Je paye, donc je peux avoir ce que je veux. Et l'argent me place au-dessus des autres. L'argent nous est nécessaire pour vivre. En avoir trop, c'est avoir des responsabilités pour l'utiliser intelligemment. Ne pas en avoir assez pose de très sérieux problèmes. Mais où est la limite ? Donc ce texte peut nous mettre mal à l'aise, dans un état de culpabilité, peut-être mal placé. Ce récit pourrait être aussi un piège, nous faire croire qu'il existe une voie royale par excellence, une chose à faire pour être sûr d'être accepté par Dieu, qu'il y a quelque chose à faire pour être sauvé. Mais je ne crois pas que ce soit le but de Jésus aujourd'hui, nous mettre mal à l'aise ou nous replacer sous la loi ou sous une condition. Le texte ne s'arrête pas à la problématique de l'argent, il va jusqu'au royaume de Dieu. Et quand Jésus dit « aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu », il casse complètement ses schémas. Voyons quel chemin il utilise avec l'homme riche. Notre homme vient avec une question. Que dois-je faire pour recevoir ? Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? Il est inquiet. Il met tout son cœur à obéir à la loi de Dieu. Mais pourtant, cela ne le tranquillise pas. Cela ne le met pas en paix. Il exprime son problème en parlant de la vie éternelle, mais on peut dire que la vie éternelle, c'est le souci ultime, mais que derrière se cachent tous les soucis inhérents à la vie éterne, à la vie humaine. La peur de tomber malade, la peur de perdre son travail, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être... Je ne sais pas quelles sont vos peurs, on en a tous au fond de nous des peurs. La peur de faire des cauchemars, je ne sais pas. Et puis, on fait beaucoup, beaucoup de choses pour ne pas connaître ses peurs, pour ne pas les ressentir. On fait beaucoup de choses pour. Notre homme riche, je l'imagine facilement comme notre écureuil, hein, tout plissé, tout coincé, tout refermé sur son souci, sur son obéissance à la loi, sur ses richesses. tout en berlificoté qu'il est dans cette idée qu'il doit faire toujours plus, toujours mieux, qu'il n'en fait jamais assez, qu'il n'y arrivera jamais. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. » Ce n'est pas que Jésus soit contre les richesses en soi. Il est contre les richesses qui prennent toute la place, qui nous bouchent les oreilles pour entendre la parole de Dieu, qui nous ferment au malheur des autres, qui nous font croire que nous pourrons toujours nous en sortir. En fait, les richesses qui sont une fin en soi. Jésus ne nous vaut pas pauvres, mais libres. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est radical. C'est lourd. C'est précis. C'est du concret. Hein? C'est pas du flou. Hein? On sait, il y a une chose précise que Jésus demande là. On a chanté tout à l'heure, je te donne tout. C'est des paroles que j'ai de la peine à chanter parce que ça veut dire quoi, tout donner? Ben là, on sait. Là, il y a une chose. Et c'est là, quand on chante ça, on dit, Seigneur, on aimerait tout pouvoir donner. S'il te plaît, parle-nous, même si on a de la peine, s'il te plaît, va quand même, dis-nous quand même. Et au jour où on doit donner quelque chose, on sait ce que ça veut dire. Parce que quand Jésus nous demande de lâcher quelque chose, c'est toujours pour aller vers plus de liberté, plus de joie, plus de paix, une capacité nouvelle à aimer. Quand on est dans un problème où on ne trouve pas la porte de sortie, ce que Jésus nous demande de lâcher nous ouvre cette porte-là. Et on sait que c'est Jésus qui nous a parlé. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. » C'est une parole propre à provoquer un électrochoc chez cet homme. Je crois que Jésus a vu en lui quelque chose dont il n'a pas conscience. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais Dieu est absent de la vie de cet homme. Dès le départ, quand il appelle Jésus bon, il lui dit « Personne n'est bon, que Dieu seul. » Quand Jésus cite les commandements, il ne cite que les versets qui concernent la relation entre les hommes. Il ne cite pas les versets qui concernent Dieu. Et il lui dit « Tu auras un trésor dans le ciel, ça aussi c'est Dieu. Et c'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. » Par cette parole radicale, Jésus met le doigt juste sur ce qui ne va pas dans sa vie. Il lui donne l'occasion de ne plus être crispé, emberlificoté, coincé, fermé, comme cette histoire nous l'a si bien dit. Il lui donne l'occasion de s'ouvrir, de faire une place à plus loin, plus haut, à plus grand que lui, à Dieu. L'écureuil avait ressenti le plaisir en lui, par la phrase de la petite taupe. Il avait vu dans ses yeux l'invitation malicieuse et il a eu envie de continuer dans cette direction, donner une noisette à la fois. C'est peu, mais on fait avec ce qu'on a, avec la capacité qu'on a. L'homme n'a pas vu le regard de Jésus qui lui disait qu'il était aimé tel quel, avec ses biens, avec sa fausse façon de voir, avec sa fausse façon de vouloir obéir à la loi pour s'en sortir tout seul. Il ne l'a pas vu, ce regard. Et il est reparti tout triste. Mais notre petit écureuil a passé un merveilleux hiver, tout plein d'amis. Je crois que Jésus a aussi été triste quand l'homme est parti tout triste. Il a eu cette parole qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il aurait bien voulu que cet homme entre dans le royaume de Dieu, parce qu'il savait que là, il avait tout ce dont il avait besoin. C'est bien le centre du texte, parce qu'il y a 6 versets avant, 3 versets avec le royaume de Dieu, et 6 versets après. C'est vraiment le centre du texte, entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, j'ai une question à vous poser, c'est quoi le royaume de Dieu? Parce que ça, c'est aussi un grand sujet, hein. Et peut-être qu'on a tous nos idées personnelles. Alors, est-ce que quelqu'un à une idée qu'il aimerait exprimer. Qu'est-ce que c'est pour lui le royaume de Dieu? Il y a des gens qui ont dit que c'était le royaume, ben c'était là où il y avait un roi. Hein? Claude Becher, une fois, il a dit, pareil, je ne me souviens plus, mais c'est Daniel qui s'en souvenait, tu as dit que c'était un lieu où il faisait bon vivre.
Pour tous.
Pour tous, ouais. Quelqu'un a une autre idée? Oui? Oh, ils sont d'accord avec cette idée, c'est quelqu'un qui était d'accord avec lui. Être heureux avec ce qu'on a, ouais. Être en relation avec notre Père, être dans sa présence. C'est un lieu où on est dans la présence de Dieu. Ouais. C'est dans le ciel. Ah, je suis pas sûre. Moi, je dirais que c'est aussi sur terre. Hein. Dans la fin du texte, Jésus dit « Pour la vie à venir, la vie éternelle ». Donc, je sous-entends que Jésus pense que c'est aussi pour aujourd'hui le royaume de Dieu. C'est dans le ciel, mais aussi pour aujourd'hui. Jésus, au début de son ministère, il disait que le royaume de Dieu s'était approché et il le décrivait comme ça. Il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a désigné par onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles, le recouvrement de la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. C'est donc bien un lieu où on se fait du bien. Pour moi, je dirais que c'est un lieu où je peux assumer mes responsabilités, où si j'ai fait une erreur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je peux regarder cette chose-là en face, parce que je sais que je ne serai pas jugée, pas rejetée, pas condamnée. Je peux me regarder comme je suis, avec mes imperfections et mes incapacités, sachant que Dieu m'aimera quand même. Même si vous avez des fois de la peine à m'aimer, Dieu m'aimera, lui, toujours. C'est un lieu où on a, pour moi, c'est un lieu où je n'ai plus peur. J'entre dans le royaume de Dieu quand je dis « D'accord, Dieu, j'ai besoin de toi. » Et ce n'est pas une chose qu'on dit une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'on redit chaque fois qu'on en a besoin. Entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas entrer dans la manière de voir et de vivre de Dieu? Apprendre jour après jour ce que c'est? Et parfois, ça veut dire abandonner une idée qu'on avait reçue quand on était tout petit, qu'on nous a enseignée, pour la remplacer par une autre. Et des fois, on a de la peine à faire ça, parce qu'on a peur de se tromper. Mais ça passe par là. Changer mon système de référence pour prendre celui de Dieu, qui est celui de l'amour comme vérité, comme valeur absolue. L'amour comme valeur absolue. Je suis aimée avant toute chose, avant d'avoir fait quoi que ce soit pour même croire. Si je sors du royaume de Dieu, c'est vrai, je me prive de cet amour, mais je continue à être aimée. En entrant dans le royaume de Dieu, j'entre dans un endroit où je reçois ce qui me fait du bien. Je peux repartir dans la vie parce que j'ai reçu. Je passe du faire pour au faire parce que. Ça nous donne un nouvel élan, une nouvelle envie d'aller de l'avant. Une nouvelle envie de vivre différente. Bon, la difficulté d'entrer dans le royaume s'adresse aux riches. On a un riche, c'est dans les trois versets, c'est dit deux fois avec, en rapport avec le riche. Mais les disciples sont déconcertés et là Jésus leur dit qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour tout le monde que c'est difficile. Les disciples ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils demandent à Jésus « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu. On ne peut rien faire pour, on ne peut qu'avoir les mains ouvertes, se présenter dans notre dénuement et notre fragilité, et recevoir se reposer dans sa présence parce que nous sommes aimés de toute façon. Les disciples essayent de se rassurer. Nous, on a tout quitté pour te suivre. On a fait tout juste. Jésus les renvoie au don, à tout ce que Jésus donne. Ils reçoivent au centuple avec les persécutions. Et je pense que pour vivre les persécutions, il faut vraiment être dans le royaume avec la présence de Dieu qui nous soutient. Il ne les rassure pas vraiment. Au contraire, il laisse planer un doute avec cette phrase énigmatique « Beaucoup des premiers seront les derniers, beaucoup des derniers seront les premiers. » Autrement dit, personne ne peut savoir qui peut être sauvé. Cela appartient à Dieu. Peut-être que cette personne que je prends en exemple, elle me semble une première, mais peut-être qu'elle sera une dernière. Et peut-être que cette autre personne que je juge pas bien du tout du point de vue de ma vision de la foi et de la vie chrétienne, celle-ci sera quelqu'un de bien, que Dieu mettra en premier. Bon, l'inquiétude, c'est un sentiment qu'on n'aime pas, très désagréable à vivre. Nous faisons beaucoup d'efforts pour ne pas la ressentir. On affirme notre foi pour la chasser, on met des couvercles pour faire comme si elle n'existait pas. Et puis on a cette idée assez répandue que si on est dans l'inquiétude, c'est qu'on manque de foi. Ne vaudrait-il pas mieux admettre que l'inquiétude fait partie de notre réalité humaine, profonde d'être humain, qu'il ne nous est pas demandé de ne pas être inquiets, mais de nous demander de toujours retourner dans le royaume, là où nous recevons ce qui nous est nécessaire pour ne plus avoir peur et continuer dans la vie. Ce lieu où Jésus nous dit « Tu n'es pas seul, je t'aime, n'aie pas peur, j'ai tout accompli. » Et y revenir chaque fois que l'inquiétude se rappelle à nous. L'amour qui était dans le regard de Jésus pour l'homme riche est un amour qui ne possède pas. Il ne referme pas sa main sur la personne aimée. Il dénoue nos doigts resserrés sur nos prises jusqu'à ce que nos paumes s'ouvrent enfin vers le ciel. Et si nous demandions au Christ « Pourquoi marcher ainsi les mains ouvertes ?» il nous répondrait sûrement « C'est pour mieux recevoir, mon enfant. » Aurions-nous assez de nos mains pour contenir le trésor dans le ciel que Jésus promet sans jamais le détailler ? À moins que ce trésor ne tienne tout entier dans la simple ouverture qu'opère en nous la nécessité de recevoir de plus loin, de plus haut. Recevoir est le trésor.
Nous entrons dans le moment de la Sainte Cène. Je vais vous lire son institution dans l'Évangile de Marc, chapitre 14, versets 22 à 24. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » La Sainte Cène, c'est un moment un peu particulier. Et d'ailleurs, le texte est un peu particulier parce qu'en fait, quelques versets avant, il y a une trahison, et quelques versets après, il y a un reniement. Et au milieu, on a une alliance. Et le fait que chaque dimanche, on répète ce moment, n'est pas une routine, mais c'est à chaque fois une occasion pour qu'on puisse en percevoir le sens et en accepter les conséquences. En fait, il s'agit de considérer que nous échappons, nous tous, par la grâce, à une juste condamnation pour toutes nos fautes et que nous recevons un pardon complet. Et ça va tellement à l'encontre de notre bon sens humain que reprendre cette idée chaque dimanche, c'est vraisemblablement pas inutile. Merci Seigneur, car nous voulons nous souvenir que ton sacrifice gratuit et immérité en notre faveur, quand tu as pris sur toi le poids de notre condamnation. Nous te remercions, Seigneur, pour le sang que tu as versé à la croix et par lequel nous sommes lavés de nos fautes et qui nous rend sans péché aux yeux de Dieu. Même si c'est parfois difficile à comprendre, nous te disons merci et nous prions pour que nous en soyons dignes.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de vin pour laquelle nous disons merci est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En acceptant ce que Jésus a fait pour nous, nous entrons dans le royaume de Dieu et nous l'en remercions. C'est nos mains qui ont préparé ce repas, mais c'est Dieu qui nous invite. Tout est prêt. Il y a au milieu les godets violets dans lesquels il y a le jus de raisin. Et si quelqu'un désire la coupe, qu'il fasse signe à André ou à moi. Également, si quelqu'un aurait quelque chose à exprimer, quelque chose sur le cœur qu'il aimerait partager avec nous, vous êtes libre de prier.
ce matin par ce que j'ai entendu, encouragée par cette idée que recevoir, c'est le cadeau. Je reçois volontiers ce que tu tiens en réserve. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta présence. Sois béni.
Amen.
Seigneur, merci parce que nous prenons un repas qui est la table du roi, et du roi qui est aimant, et qui nous dit que tant qu'on est dans ta main et dans la communion avec toi, nul ne nous arrachera de ta main de bonté. Et nous te remercions pour ton amour qui prévaut, pour ce repas de générosité que tu nous appelles en aussi grand nombre. Que tu sauves et que tu appelles de toutes les races et de toutes les langues, et que personne n'est indigne parce que tu aimes. Nous te louons ensemble. Amen.
Amen.
Merci Père pour la liberté que tu nous donnes. Merci Père parce que de pouvoir tout te donner, c'est vrai que cette liberté en toi. C'est vrai de pouvoir tout te remettre, des choses qui nous tiennent à cœur, pouvoir les mettre devant toi. Seigneur, c'est aussi pouvoir vivre avec toi, vivre une vie simple, une vie bénie de ta part. Merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir te rencontrer, de pouvoir déposer à tes pieds ce qui nous est cher, et aussi ce qui nous est lourd.
Seigneur, j'aimerais te dire merci, puisque tu n'as pas attendu que je vienne à toi pour m'aimer, mais tu dis, Dieu a tant aimé le monde. Simplement, Seigneur, en t'acceptant, je bénéficie de cet amour, de cette sécurité, de ce que tu m'enlèves, cette inquiétude, Seigneur. Mais merci, parce que tu m'as aimé et tu aimes tout le monde. Loué sois-tu, béni sois-tu.
Thank you.
Nous entrons maintenant dans le moment de l'offrande. Je ne vais pas vous faire de grands discours. Dans l'Évangile, il est question de la main droite qui ne sait pas ce que fait la main gauche lorsqu'on donne. Donc, il s'agit d'un geste qu'on doit appréhender aujourd'hui dans une grande liberté, une grande discrétion. Vous imaginez tous que ces offrandes sont utiles pour le fonctionnement de la communauté, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain. Ici, mais également plus loin que notre église locale. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas remettre les noisettes dans les paniers. Vous savez, dans les bancomates, maintenant, on peut retirer de l'argent et on peut en déposer. Essayez avec des noisettes pour voir.
Bonjour, alors les annonces. Mardi soir, rencontre du conseil à 20h. Dimanche 3 février, alors le culte, il y aura après le culte un repas canadien. Et pendant le culte, pour la garderie, les enfants de la garderie, il y aura l'activité Minicel. Donc c'est une activité pour les petits. Juste avant l'école du dimanche, donc c'est une fois par mois et ce sera dimanche prochain. Ensuite, il va se passer quelque chose et je vais donner la parole à Claude qui va expliquer.
Alors, Dimanche prochain, nous avons le repas canadien. Il faut que vous sachiez, pour ceux pour qui c'est du chinois, c'est apporter un plat salé ou apporter un plat sucré, et ensemble, ça fait un banquet extraordinaire. Donc, dimanche prochain, à midi, d'accord ? Maintenant, à 14h, ceux qui sont là, bien sûr, hein, les autres se feront du bien aussi, là où ils seront. Alors, à 14h, on a pensé que c'était d'actualité, aussi à cause des votations cantonales autour de la nouvelle loi sur la laïcité, à laquelle, en tout cas, les gens ici qui votent ont à réfléchir, et c'est un peu compliqué. Donc, on s'est dit, il y a des compétences, et parmi les compétences, il y a un jeune professeur qui s'appelle Philippe Gonzalez. On lui a demandé s'il était d'accord d'intervenir, nous éclairer un peu nos lanternes sur les enjeux de cette votation, parce qu'elle est compliquée. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir tout de suite, même dans les textes de la votation, et nous parler cette question à 14h, de 14h à 15h. Alors, voilà une opportunité, même si vous avez déjà voté, que ça vous intéresse quand même encore, parce qu'on aura à le vivre ici dans le canton de Genève, cette laïcité. C'est ça le thème, hein, la laïcité. Comment la vivre ? Quels sont les enjeux ? Si ça vous intéresse, vous venez, conférence, débat, sympathique. Il n'y a pas de l'Église évangélique dit de voter comme ça ou comme ça, mais réfléchir pour qu'on vote en âme et conscience. Ça va ?
Alors, du 27 juillet au 3 août, il y a une inscription, c'est un camp famille, mais je crois que c'est réservé, c'est assez large, la famille assez large. Si vous n'avez pas d'enfants, mais des petits-enfants, neveux, nièces, vous êtes aussi concernés. Alors, il paraît, l'inscription, on vous le dit déjà, parce que l'inscription, c'est à partir du 3 février, donc dimanche prochain, et il paraît que c'est un camp qui se remplit très, très, très vite. Donc, si vous voulez avoir des chances d'y participer, vous relevez l'adresse Internet. Si vous n'avez pas le temps, vous irez demander après à Thierry qui vous la redonnera. Je ne crois pas qu'il y ait des papillons, donc... Mais vous pouvez aussi demander à Philippe, je crois que Philippe Anchaud a aussi, sera un des orateurs, il a aussi des renseignements. Voilà. Mardi 5 février, le fil d'argent, fascinante Éthiopie, donc une conférence avec Guy Gentison qui avait été pasteur à Nyon. Comme j'ai déjà dit, c'est le fil d'argent, il n'y a pas d'âge minimum. Hein. Si vous êtes intéressé par ce sujet, que vous êtes libre le mardi après-midi, vous êtes les bienvenus. Mardi soir, 5 février, alors, voyez l'heure, c'est 20h15, c'est plus 20h, c'est 20h15. À la première série, on recommence une série d'ateliers bibliques, l'espérance chrétienne illumine la vie. Alors, première, l'espérance, sa fonction et son histoire. En fait, pourquoi ces ateliers bibliques et pas études bibliques, c'est parce qu'il y a une partie... conférence et explication du texte. Après, il y a une partie où on travaille en groupe et une troisième partie, une mise en commun et une synthèse de ce qui a été dit. Voilà pourquoi c'est atelier biblique et pas étude biblique. Il y a des papillons sur le présentoir. Si vous voulez les prendre, vous avez tous les sujets. Ça, vous le savez. Dimanche 10 février, donc il n'y aura pas de culte ici. C'est la journée inter-église à Palexpo. Là aussi, il y a des papillons sur le présentoir avec tout le programme. Il y a le culte le matin, il y a d'autres choses encore prévues l'après-midi. Alors, il y a des papillons, vous pouvez les prendre et vous aurez le programme de la journée. Donc, pas de culte ici. Dimanche 10 mars, c'est encore loin, mais on vous demande déjà de réserver la date. Rêver et construire la famille de Dieu, l'enfance, c'est l'affaire de tous. On a bien dit l'affaire de tous. Donc, on va réfléchir à comment faire, comment on peut rêver, comment on peut construire cette famille de Dieu. Donc, tout le monde est concerné. Alors, on vous en reparlera, mais gardez déjà cette date du après le repas canadien. Alors, maintenant, il y a une annonce pour un concert. C'est David Porter qui va faire cette annonce.
Merci. Le 17 février, donc c'est le dimanche après le culte en commun au Palexpo, il y aura un concert ici à 16h 17 moins 1, ça fait 16 heures. Donc le jour avant, vous vous posez la question à quelle heure c'est, vous dites c'est 17 moins 1, 16 heures. On aura l'occasion d'avoir un guitariste professionnel qui vient du Chili, mais qui habite la région parisienne depuis une vingtaine d'années. Donc un guitariste latino jazz, aussi chanteur, qui va partager ses chants plutôt en espagnol, mais aussi souvent en français. Depuis de longues dates, c'est le professeur de guitare à Psalmodia Gagnère. On était lors de la formation artistique là-bas. Vous allez recevoir un email sous peu, également sur des réseaux sociaux, avec les infos. Merci de partager cet email avec vos voisins, vos amis, ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église. C'est justement un concert très ouvert où les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller à une église seront très à l'aise. Je cite le chanteur avec qui j'ai parlé lundi dernier. Si vous n'êtes pas sur une liste de recevoir des mails, vous pouvez venir me demander après de vous rajouter pour ce concert. Je peux vous envoyer les infos. On espère quand même qu'on va essayer de faire, si c'est possible, quelques dépliants pour ceux qui sont privilégiés d'être libres de l'Internet et qui auraient besoin justement de quelques dépliants. Ça passe aussi de bouche à l'oreille. Donc, c'est pas simplement un concert pour vous, c'est un concert aussi pour ceux que vous aimeriez inviter. Merci.
Philippe a aussi une annonce à faire.
Je serai absent quelques jours à partir de jeudi matin jusqu'au dimanche 10 février et je remercie le conseil d'avoir accepté une invitation. Je travaille depuis plusieurs années avec une ONG chrétienne en Asie du Sud-Est qui travaille à la libération des enfants et des femmes qui sont pris dans des réseaux de traite d'êtres humains. Et cette ONG organise une fois par année une conférence annuelle pour ses permanents et bénévoles. Il y a une centaine de permanents, environ 200-250 bénévoles en Asie du Sud-Est. Cette conférence se tiendra cette année à Bangkok et je serai là-bas pour animer les rencontres plénières de cette conférence. Donc, vous excuserez mon absence et puis je me réjouis déjà de vous retrouver. J'essaierai d'emmener un petit peu de chaleur et puis quelques nouvelles. Merci en tous les cas, si vous voulez bien, de prier pour moi. Cette ONG fait un travail remarquable, mais dans des conditions assez difficiles. Il s'agit donc de sortir essentiellement des enfants, des jeunes femmes, de réseaux de traite d'êtres humains, à la suite de quoi ces personnes reçoivent des soins médicaux, des soins dans le domaine aussi de la scolarité, apprennent à lire, à écrire, et puis du petit crédit leur est attribué. Une partie des permanents de cette bénévole, de cette association, travaille au rachat pur et simple de ces enfants qui sont souvent maltraités par la junte militaire dans ce pays. Et très concrètement, pour quelques dollars, une vingtaine, une trentaine de dollars, ils rachètent littéralement ces enfants pour leur donner une vie nouvelle à l'honneur du Seigneur. Et je me réjouis d'être encore une fois témoin de cette action étonnante de la part de Dieu dans ce pays. Merci beaucoup.
Que le Seigneur te bénisse, te protège et te mette en bénédiction pour ces gens comme tu l'es pour nous. Dimanche prochain, nous avons un culte que l'on appelle participatif. De toute façon, tous nos cultes sont participatifs. On n'assiste pas au culte, on participe au culte. Vous savez ça, hein ? Ce n'est pas un spectacle ici. Hein ? Ça fait une différence. Hein ? Alors, dimanche prochain, nous avons un culte participatif. Et puis, si vous pouvez, les uns et les autres, les jeunes et les moins jeunes, d'accord, vous préparer à la question « Qui est Jésus pour moi ?», vous aurez l'occasion de prendre la parole. Ou bien, « Qu'est-ce que ma connaissance de Jésus m'a appris sur Dieu ?» Qu'est-ce que ma connaissance de Jésus m'a appris sur Dieu ? D'accord ? Je crois que c'est important. Jésus a dit « Qui m'a vu a vu le Père ?» D'accord ? Quand vous avez vu Jésus, quelque chose dans l'Évangile, qu'est-ce que vous avez compris du Père ? On se prépare ? Les jeunes peuvent enrichir les aînés, les nouveaux peuvent enrichir les vieux, d'accord ? Et vice-versa, dans tous les sens, les hommes et les femmes. On se prépare, Je présiderai ce moment dimanche prochain et c'est enrichissant parce que du Christ vient la vie.
Alors, encore une dernière annonce. Depuis bientôt 2 ans, beaucoup de personnes prient pour que Léon Chaud trouve un appartement sur Mérin, qu'il puisse rester à Mérin. Actuellement, il sous-loue l'appartement de la famille Sowell, mais cette sous-location se termine cet été, avec pas de possibilité de prolonger. Ils ont fait d'actives recherches, toutes les réponses étaient négatives, et depuis quelques jours, ils ont reçu une réponse qu'un appartement leur était attribué au verger, juste là à côté. Alors, il y a encore des détails à régler, mais c'est une réponse à nos prières. Alors, merci Seigneur. Et puis, on est très contents. Voilà.
Vous pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction qui est aussi pour moi. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Allez dans l'assurance de l'amour du Père. Allez dans la paix tous les jours de la semaine prochaine. Amen.